Fabrice Hadjadj, vous êtes philosophe, homme de lettres, écrivain, essayiste. On dit de vous beaucoup de choses, entre autres que vous êtes d'une lucidité, d'une grande lucidité, d'un style tout à fait particulier. Et dans un de vos livres qui s'appelle « La foi des démons », vous faites parler Dieu et vous lui faites dire, à la suite d'une histoire, « Dieu dit « Je me cache et personne ne veut me chercher ». Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Alors d'abord, c'est pas moi qui le dis, puisque c'est une citation. C'est une citation de Martin Buber dans ses récits hassidiques. Et c'est l'histoire d'un enfant qui dit à Rabbi Baruch, voilà, j'ai joué à cache-cache et je me suis caché. Et mon ami, après, a cessé de me chercher. Et donc, je suis resté dans ma cachette pendant longtemps et puis il n'y avait personne. Alors, quand il entend ça, Rabbi Baruch, il se met à pleurer et il dit, c'est la même chose avec Dieu. Il se cache, voilà, et il dit, Dieu dit, je me cache et personne ne me cherche. La vraie question pour nous, c'est une question très concrète, c'est qu'on pourrait parler d'une absence de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne se communique pas à nous de manière beaucoup plus évidente, dans une évidence immédiate? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une grande colonne de feu qui descend sur l'autel à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie? Pourquoi finalement il n'y a pas de grands sons et lumières? Pourquoi on ne porte pas d'oreillette intégrée, où nous aurions des paroles intérieures en permanence, voyez, qui pourraient nous guider directement et de manière très articulée. Et en fait, comprendre que Dieu se cache non pas comme un retrait, comme une réserve, mais pour se donner à nous plus profondément. D'abord parce qu'il ne veut pas qu'on lui obéisse comme le Tout-Puissant, tel des esclaves. Il veut faire naître en nous un désir, il veut que nous le cherchions. Il ne veut pas entrer dans un rapport de force, mais presque dans un rapport discret, presque un rapport de faiblesse, pour qu'on puisse vraiment se tourner vers lui à travers cette petite hostie, justement, où il se cache, qui nous apprend aussi à se tourner vers les petites choses. Et puis, l'enjeu qui est fondamental, c'est-à-dire dans ce retrait de Dieu, c'est que c'est un don qui nous est fait. Parce que si Dieu nous parlait directement, d'une certaine façon, nous serions muets. Et même la création tout entière nous apparaîtrait comme muette. Or, il nous parle à travers la création, il nous parle à travers notre prochain, il nous parle à travers les témoins qu'il a choisis. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que cette absence de Dieu, qui est si douloureuse aussi, c'est aussi le lieu qui nous invite à porter une lumière, c'est-à-dire à être nous-mêmes, les uns pour les autres, présence de Dieu. Je dis souvent que, vous savez, il y a une fausse générosité. La fausse générosité, c'est quand on veut être généreux, donc on donne aux autres, mais on ne veut pas qu'eux-mêmes donnent. Et alors on les empêche d'être généreux à leur tour. Or, Dieu n'a pas cette générosité avare. Il est d'une générosité généreuse, c'est-à-dire qu'il veut nous rendre participants de son œuvre. Et donc, il nous ménage la possibilité de ce don. C'est-à-dire que ces silences sont là pour que nous puissions prendre la parole, pour que nous puissions accueillir sa parole et la répercuter à travers notre vie de manière unique et féconde.
Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé, Fabrice Hadjadj ? Vous êtes converti, baptisé en 1998. Est-ce que cette absence et cette présence de Dieu, comment est-ce qu'elle s'est manifestée, révélée dans votre parcours, dans votre vie ?
Ça s'est manifesté. Alors, je ne me fais pas gloire d'être converti. Ça m'est tombé dessus, hein. J'avoue que je n'ai aucun mérite là-dedans. Et puis, ça n'est qu'un commencement. Enfin, c'est le commencement d'un chemin.
La conversion, c'est l'affaire de toute une vie.
Voilà. Et que c'est entrer dans une aventure. Et puis, c'est aussi le danger, puisque tout d'un coup, on a reçu quand même une lucidité qui nous est donnée par l'Évangile. Eh ben, on a aussi la possibilité de devenir pire, parce que si on est pécheur pareil qu'avant, vous voyez, c'est quand même pire. Donc c'est quand même un engagement et une exigence, cette conversion. Mais par rapport à ce que vous dites, je retiendrai dans cette histoire de cache-cache la posture enfantine. J'ai toujours été marqué par l'esprit d'enfance. Et je pense que beaucoup d'écrivains sont marqués par cela. Par exemple Nietzsche ou Georges Bataille, qui à certains moments fait l'éloge de l'enfantillage. Mais malgré tout, chez l'un comme chez l'autre, il y a cette idée de devenir souverain soi-même, d'être l'ultime juge, de ne pas... Et c'est une enfance sans père, finalement. Ce qui s'est passé dans ma conversion, c'est vraiment l'entrée dans une haute enfance, quoi, ou dans un véritable esprit d'enfance. Je pense à ça parce que finalement, c'est une relation avec un Dieu qui se cache, c'est vrai, et qui a une manière très, très singulière. Il a beaucoup d'humour, il nous parle avec les événements, avec beaucoup d'humour. Et tout d'un coup, c'est ça ce qui m'a marqué, le fait que Dieu est spirituel dans tous les sens du terme, quoi. Et ça, c'est vrai que ça a été un changement complet. Et il y a une chose aussi dont je voudrais parler, c'est que depuis quelques années, je travaille avec des clowns. Et ce sont des clowns qui m'ont fait voir dans ce que je disais qu'au fond, il y avait un lien entre le christianisme et le fait d'être clown, enfin le fait d'être chrétien et le fait d'être clown. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un clown ? C'est quelqu'un qui est toujours dépassé d'une certaine façon par ce qui lui arrive, il est toujours dérouté, il essaye de bien faire les choses et il rate. Et il y a cette phrase de saint Paul qui dit « voilà, nous portons des trésors dans des vases d'argile ». C'est ce qui est assez clownesque, avec on a des choses trop grandes pour nous, trop précieuses pour nous. Que cette phrase que je rapproche d'une parole de l'abbé Journet qui disait « Le christianisme, ce sont les plus grandes choses pour les plus misérables ». C'est ça qui est beau dans cette enfance, en fait, que donne la foi. C'est le fait qu'on est livré à une aventure où on est tout le temps déséquilibré, où on n'est pas maître des choses, où il nous arrive des choses auxquelles on ne s'attendait pas, où parfois c'est difficile, mais on est déporté, dérouté, et on ne comprend plus rien. Le fait que les choses ne soient plus du tout planifiées, quoi, et maîtrisées absolument. Et c'est ça la vie. En fait, être vivant, c'est être ouvert à ce à quoi on ne s'attend pas. C'est être ouvert à quelque chose qui nous dépasse. Et on le vit pleinement que dans cet esprit d'enfance, c'est-à-dire en reconnaissant aussi que ce qui arrive malgré tout est le fait d'un père qui ne peut pas nous donner un scorpion quand on lui demande un œuf.
Est-ce que c'est cet esprit d'enfance ? Est-ce que c'est cet esprit de joie qui vous a donné le titre « Le paradis à la porte ».
Oui, alors souvent mes titres sont ambigus, voilà, est-ce que le paradis est à la porte comme ceux qui frappent ou est-ce qu'on l'a mis à la porte ?
Est-ce que finalement votre façon d'être un peu dans le paradoxe, c'est pas finalement une façon de jouer ?
Oui, ou c'est un jeu sérieux, comme disait Platon, la philosophie est un jeu sérieux. Et Platon aussi parle de l'écriture, il dit le problème de l'écriture, c'est que finalement ça fige la parole. Et pour que la parole ne soit pas figée, et c'est ça le drame de beaucoup de traités, de spiritualité, de choses parfois un peu lourdes, pour que l'écriture ne soit retrouve la parole vivante, il faut qu'il y ait du jeu. Du jeu au sens mécanique du terme, si, c'est quand... Pour qu'une chose fonctionne, il faut qu'il y ait un certain jeu entre les pièces, sinon elles sont trop rigides, ou alors si elles sont trop distantes, l'articulation ne fonctionne plus. Et c'est très important qu'il y ait ce jeu-là, cette notion de jeu qui n'épuise pas du tout le mystère chrétien. C'est un lieu qui est très intéressant parce qu'il y a une loi, il y a des règles du jeu. Mais curieusement, ces règles dans le jeu ne sont pas là pour nous piéger. On ne les vit pas comme des choses qui nous emprisonnent, comme des contraintes, mais vraiment comme quelque chose qui vient libérer une relation avec d'autres et libérer un moment de joie, un moment festif. Et donc, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est comment la règle permet le jeu, comment la règle devient le lieu d'une liberté. Et donc, dans ce qui se joue peut-être dans mon écriture, c'est d'une part, bien sûr, le jeu avec les mots, avec la langue, mais aussi un certain jeu qui est celui de la pensée. Si la création, si le réel est l'œuvre de l'être le plus spirituel, alors forcément, il suffit de dire simplement la réalité pour dire des choses extraordinaires. Regardez par exemple, la parole, c'est quelque chose de très ordinaire. La parole, si on regarde un peu ce que c'est, c'est-à-dire que c'est comme si on assistait sans cesse à la métamorphose du prince charmant en grenouille et de la grenouille en prince charmant. Parce que qu'est-ce que je fais ? Je fais des sons avec ma bouche, avec mes lèvres, je fais des choses donc, qui produisent un mouvement de particules dans l'air, mais quand ça vous frappe, vous entendez quoi ? Vous entendez des choses spirituelles, des choses qui viennent frapper votre esprit, votre cœur. Donc voilà, la matière et l'esprit ne cessent de se répondre. Ce que je conçois dans mon esprit qui est spirituel devient matériel, ce matériel redevient spirituel en vous. C'est quand même fou, quoi. Quand on essaye de dire les choses telles qu'elles sont, on devient assez vite, je pense, drôle, parce que la réalité est drôle, ou alors déchirant. En tout cas, on est tout de suite, on dit des paradoxes. Ce que je veux dire, c'est que le paradoxe, c'est pas une manière de rhétorique, c'est pas de forcer le réel pour essayer d'avoir des phrases habiles. C'est que le paradoxe se trouve à même la réalité, parce que Dieu est profondément spirituel.
Et c'est ce qui vous a justement amené à écrire « Le paradis à la porte ».
Et le sous-titre aussi, parce que ce qui est à la porte, c'est la joie qui dérange. La vraie question, c'est comment se fait-il qu'on puisse refuser la joie ?
Et comment se fait-il qu'on puisse refuser le paradis ?
C'est la question, c'est une question que j'essaye de travailler depuis mon livre « Réussir sa mort », que j'ai beaucoup déployé dans la foi des démons, parce que la vraie question, c'est comment est-ce qu'une créature qui est créée dans la grâce et qui ne commet pas de faute d'intelligence, qui n'est pas dans l'ignorance hein, du point de vue de l'intelligence naturelle, qui n'est certainement pas dans la vision béatifique, parce que sinon elle ne pourrait pas refuser Dieu si elle le voyait tel qu'il est, elle serait immédiatement béatifiée, mais qui a une intelligence théologique très supérieure à la nôtre, comment cette créature angélique peut dire non? C'est quand même une possibilité réelle. Qu'est-ce qu'il y a finalement dans la béatitude, dans la joie, qui fait qu'elle puisse être effrayante, qu'on puisse la refuser? Donc la joie a quelque chose qui dérange puisqu'on peut la refuser. Et quand on regarde ce qu'est la joie, on se rend compte que effectivement la joie n'est pas quelque chose de construit. La joie est toujours liée à une rencontre, elle est toujours reçue. Et ça, c'est humiliant d'accepter de recevoir finalement, de se dire voilà, c'est de l'autre que je tiens ma joie. C'est toujours dans une communion à l'autre. Et puis ensuite, la joie, elle vient briser notre contentement au sens où je reçois de l'autre. Si cette eau vive, je la reçois dans une citerne fermée, eh bien ça devient une eau stagnante et ma joie se change en une sorte de ricanement méprisant. Or, je dois la communiquer. Donc la joie m'envoie en mission.